Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez Le Français sur Radio SBS, Christophe Mallet et Marianne Murat pour vous présenter cette émission aujourd'hui, en ce 24 février. Nous avons un beau programme, Marianne, bonjour.
Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, bien sûr, les dernières actualités, ensuite les sports que vous allez présenter, Christophe. Et comme chaque jeudi, la chronique éco. Il y a quoi dans la chronique éco aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on parle bien du salaire médian en Australie qui augmente, mais ne vous réjouissez pas tout de suite, Marianne, le coût de la vie augmente également.
En deuxième partie d'émission, on va faire un point sur les élections australiennes avec Grégory Pless. Et ensuite, on va parler cinéma. Valérie Lemercier nous parle de son film Aline, un film sur Céline Dion dans lequel elle tient le premier rôle. C'est parti, on commence ?
C'est parti, c'est le journal. Vous écoutez Le Français sur Radio SBS, il est 13h02, le journal avec Marianne Murat.
Les grands titres de l'actualité de ce jeudi 24 février. Le président ukrainien sort de sa réserve et évoque pour la première fois un risque de guerre en Europe. Les États-Unis ouvrent la voie à la négociation tout en menaçant Moscou de sanctions plus sévères. En France, Valérie Pécresse embourbée dans une nouvelle polémique de fraude cette fois. Et du sport avec Novak Djokovic qui évoque ouvertement sa position face à la vaccination contre le Covid-19. C'est dans le journal des sports. Une invasion russe d'un jour à l'autre pourrait devenir le début d'une grande guerre en Europe. Cette déclaration, c'est celle du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il s'est exprimé il y a quelques heures. Un discours qui intervient dans un contexte de crise, bien sûr, depuis lundi. Un sommet européen va se tenir à Bruxelles ce jeudi en présence des 27. L'objectif est d'évoquer les sanctions qui seraient prises par l'Europe en cas d'invasion par Moscou, mais aussi d'anticiper les éventuelles retombées économiques et migratoires sur l'Union. D'un autre côté, il y a aussi ceux qui ont déjà pris des mesures économiques, c'est le cas des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Australie. Au lendemain des annonces des sanctions, Scott Morrison alerte déjà sur d'éventuelles représailles russes. Le Premier ministre australien craint une cyberattaque. On l'écoute.
L'Australian Cyber Security Centre is not aware of any current or specific threats against Australian organisations, but are adopting an enhanced cyber security posture and have been for some time now. And increasing monitoring of threats will help to reduce impacts to Australian organisations. The Australian Cyber Security Centre recommends that organisations urgently adopt an enhanced cyber security posture.
Et parmi les réactions aux sanctions australiennes, celle du chef de la mission diplomatique ukrainienne en Australie, Volodymyr Chelkivsky a fait part de sa reconnaissance au micro de SBS. Écoutez.
At this stage, it's really important to keep pressure on Kremlin. So sanctions is the cornerstone of that pressure from the international community. And second is the international assistance to Ukraine, because we are determined to defend our country.
On vous le disait en titre, les États-Unis qui, eux, ne mettent pas de côté d'alléger les sanctions annoncées si le Kremlin acceptait de négocier. Mais inversement, la Maison-Blanche se dit aussi prête à aller plus loin, le cas échéant.
Moscow needs to demonstrate that it's serious about diplomacy. Russia's actions over the last 48 hours have, in fact, demonstrated the opposite. If Moscow's approach changes, we remain ready to engage. The United States and our allies and partners remain open to diplomacy.
Par anticipation, près d'un millier de soldats américains ont été mobilisés. Le porte-parole du Pentagone s'est directement adressé au président russe. On écoute John Kirby.
There will be suffering, there will be sacrifice, and all of that must and should be laid at his feet because he's doing this by choice. How he does this, when he does this, we don't know for sure. But if he does this, This will be a war of choice and totally unnecessary.
Une situation qui se tend de jour en jour. Hein. Alors si l'on rappelle assez simplement les faits, lundi, le président russe Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance de Donetsk et de Louhansk, deux territoires séparatistes pro-russes, autoproclamés République populaire en 2014, mais situés dans la région du Donbass, en Ukraine donc. Les conflits dans cette zone sont monnaie courante depuis 8 ans et le conflit a déjà fait plus de 14 000 morts. L'annonce par Vladimir Poutine n'est bien sûr pas sans conséquence. Les troupes russes sont entrées dans le Donbass dès lundi soir pour, et là nous citons le président russe, maintenir la paix pour éviter un regain de tension. Mais la plupart des pays occidentaux y voient le prélude à une invasion. La ministre des Affaires étrangères australienne, Maryse Payne, dénonce le comportement de Vladimir Poutine.
There's absolutely no justification for Russia's unprovoked military actions. It is coercion, it is bullying by an authoritarian power against a democratic neighbour, and it will not be accepted by responsible nations that want to preserve an open, stable and secure world.
Maryse Payne qui va même plus loin en parlant de perversion obscène, je cite, de la part du président russe. Même si l'on ne parle pas encore officiellement d'invasion russe, le Parlement ukrainien a décidé d'introduire l'état d'urgence, prévu pour 30 jours dans un premier temps, reconductible pour un mois supplémentaire. Cet état d'urgence s'applique sur tout le territoire ukrainien, à l'exception des régions de Donetsk et du Louhansk donc, puisque là-bas il y est déjà en vigueur depuis 2014. Écoutez les précisions du secrétaire du Conseil ukrainien et de sécurité nationale et de défense, Oleksiy Danilov.
The state of emergency will include reinforcing maintenance of public order and security of critical infrastructure. It might include restrictions on certain types of transport and additional transport checks. It might also include control of individuals' documents.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur la situation en Ukraine. En même temps que ce journal, le Conseil de sécurité de l'ONU tient une nouvelle réunion d'urgence à New York, la deuxième en 3 jours, en raison de l'évolution militaire sur le terrain. Dans nos prochaines émissions, on vous fera suivre bien sûr ce conflit qui pourrait d'ici peu se transformer en guerre. On reste en Europe et direction la France, à seulement 45 jours de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron n'est officiellement toujours pas candidat, mais il semble que sa campagne soit déjà sur les rails. Le président sortant va tenir un premier meeting le 5 mars prochain, ce sera à Marseille. Elle s'est déjà lancée dans l'arène, elle c'est Valérie Pécresse. Mais depuis le début de sa campagne, la candidate de la droite collectionne les polémiques. La dernière en date a été révélée par le quotidien français Libération. On y apprend que Valérie Pécresse aurait gagné la primaire de la droite grâce à des manœuvres frauduleuses, notamment grâce au vote d'électeurs pourtant décédés. Aurélien Devernois pour RFI.
Cette primaire, elle a été exemplaire.
Ne rien lâcher, n'admettre aucun dysfonctionnement. Assaillie de questions sur le plateau de BFM Télé, Valérie Pécresse a choisi la stratégie de la négation avec un argument, un seul.
Si c'était vrai, mes adversaires l'auraient critiqué. Elle s'est déroulée sans aucune contestation. S'il y avait eu le moindre doute, croyez bien qu'il y en aurait eu.
Sauf que la primaire des LR avait justement été conçue pour limiter au maximum les risques de contestation, avec 2 tours s'enchaînant en 48 heures et selon le journal Libération, la destruction rapide du fichier des votants. De quoi favoriser une course aux adhérents de complaisance, ce dont d'ailleurs tous les candidats avaient conscience, reconnaît-on, dans les rangs des Républicains. Mais je ne pensais pas que ça aurait été jusque-là, admet une sénatrice LR, qui s'étonne par ailleurs du timing des révélations alors que Valérie Pécresse est à la peine. La candidate parle-elle directement de manipulation et de tentatives de déstabilisation, mais par qui ?
Écoutez, je n'en sais rien et je ne veux pas le savoir. Moi, je trace ma route.
Un manque étonnant de curiosité qui s'explique, selon un républicain, par la volonté d'éviter des règlements de compte en interne susceptibles de porter un coup fatal à la candidature Pécresse et au parti lui-même.
Alors pour relancer sa campagne et faire parler d'autre chose que des polémiques, Valérie Pécresse joue la carte de la politique pure et dure. La candidate LR s'est donc rendue hier à l'ambassade d'Ukraine à Paris, une visite qui n'était pas prévue. À son agenda, les précisions de Pierre Olivier.
En sortant de l'ambassade d'Ukraine, après 30 minutes d'entretien diplomatique, Valérie Pécresse enfile ses habits de présidentiable à la recherche du bon ton pour parler international.
L'ambassadeur m'a fait part de sa très grande inquiétude, donc je l'ai assuré évidemment du soutien de la France.
Valérie Pécresse, en femme d'État, à la hauteur des enjeux internationaux, elle aussi, dit-elle, aurait commencé par dialoguer avec Vladimir Poutine et rejoint donc la position d'Emmanuel Macron.
Le président de la République ne peut pas être blâmable parce qu'il a dialogué, mais aujourd'hui, on doit mettre en place des sanctions et dire à Vladimir Poutine, maintenant c'est stop.
Valérie Pécresse s'en profite aussi pour attaquer les candidats qui ne condamnent pas franchement, comme elle, le président russe. Dans son viseur, Marine Le Pen, mais surtout celui qui la concurrence le plus dans les sondages, Éric Zemmour, qui déclarait récemment que Vladimir Poutine ne fait que défendre ses intérêts.
Pour moi, être aligné sur les positions de Poutine, c'est pas la France debout, c'est pas la France gaullienne, c'est une France à genoux.
Derrière cette rencontre avec l'ambassadeur d'Ukraine, un objectif pour Valérie Pécresse, rappeler à l'électorat de droite que dans le match pour la présidentielle, c'est elle la candidate la plus solide face à Emmanuel Macron.
Toujours en France, le Parlement a définitivement adopté l'allongement de la durée légale de l'interruption volontaire de grossesse. Le délai pour avorter était de 12 semaines, il est désormais de 14, soit un peu plus de 3 mois de grossesse. Ce sera sûrement la dernière réforme sociale adoptée sous ce quinquennat d'Emmanuel Macron. Une réforme qui aura mis près d'un an et demi pour aboutir, puisque ce texte était à l'étude depuis octobre 2020. Retour en Australie et la côte est du pays fait face à de violentes intempéries. Un corps sans vie a été retrouvé dans le Queensland. Il s'agit d'une femme de 63 ans décédée noyée dans sa voiture. Un homme de 54 ans est toujours activement recherché. Sa moto a été trouvée abandonnée près de Gympie. Intempéries également en Nouvelle-Galles du Sud. 40 enfants ont dû être évacués d'une crèche dans l'ouest de Sydney à cause des inondations. Des pluies diluviennes sont encore à prévoir dans les prochains jours. Et pour le reste de la météo sur tout le territoire, on commence par l'ouest. Non touché par ces intempéries. Il fait 36 degrés à Perth, grand soleil. Adélaïde, 31 degrés. Des averses à Melbourne comptaient 24 degrés. Conditions similaires à Hobart avec 22 degrés. Canberra et Sydney, 26 degrés. 24 à Brisbane. Attention aux intempéries, on vient d'en parler. 32 degrés à Cairns, 31 à Darwin. Le rappel des grands titres, le président ukrainien sort de sa réserve et évoque pour la première fois un risque de guerre en Europe. Les États-Unis ouvrent la voie à la négociation tout en menaçant Moscou de sanctions plus sévères. Et en France, la candidate à l'élection présidentielle Valérie Pécresse, embourbée dans une nouvelle polémique de fraude cette fois.
Programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
C'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, le journal des sports présenté par Christophe Mallet. Les dernières huitièmes de finale de la Ligue des Champions en football, mais pas que, à tout de suite.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Journal des sports et on commence cette édition avec du football et la Ligue des Champions, les dernières huitièmes de finale de la compétition. L'Atlético Madrid et Arsenal qui ont fait match nul un partout et l'Ajax d'Amsterdam qui décroche un match nul également deux partout sur la pelouse du Benfica Lisbonne. Et Sébastien Lair a encore une fois été l'élément déterminant de cette équipe, Cédric de Oliveira.
Oui, c'est devenu une habitude pour l'Ivoirien qui a tout de même connu une soirée en demi-teinte sur la pelouse de l'Estadio de la Luz. Alors que l'Ajax menait 1-0, il a malencontreusement détourné le ballon dans son propre but. Un but contre son camp donc, qui a remis le Benfica dans le match. Mais trois minutes plus tard, l'imposante avant-centre s'est montrée opportuniste pour permettre à son équipe de prendre l'avantage. Encore un but donc, le 11e depuis le début de cette campagne de Ligue des Champions qui fait de l'attaquant ivoirien le meilleur buteur de la compétition. Allaire a d'ailleurs marqué dans chaque rencontre européenne de l'Ajax cette saison. Et malgré l'égalisation des Portugais en fin de rencontre pour sceller le score à deux partout, il sera bien la principale menace des Néerlandais au match retour.
Cédric de Oliveira, allez, on passe au cyclisme. Quatrième étape du Tour du Rwanda, 124 km. Jonathan Restrepo, le Colombien, a perdu son maillot jaune de leader au profit du Français Axel Rance. L'étape a quant à elle été gagnée par le Sud-Africain Kent Mayne.
Quand le peloton a rattrapé l'échappée dans la montée finale, il y a eu une hésitation. J'ai vu l'ouverture et alors j'ai foncé jusqu'à la ligne d'arrivée. C'était un gros effort, ils se sont même rapprochés à la fin, mais je suis tellement heureux, je ne peux même pas vous dire à quel point. Par le passé, j'ai déjà été bien classé au général sur ce tour, mais ça n'a jamais vraiment été mon objectif. Je voulais surtout gagner une étape. Selon moi, si on finit dans le top 10 sans gagner d'étape, ça ne veut rien dire. Alors que si tu finis dernier en ayant remporté une étape, c'est beaucoup plus significatif.
Voilà pour le tour du Rwanda. Et en cyclisme, encore la Britannique Lizzie Deignan, qui était vainqueur du Paris-Roubaix Femmes, la course inaugurale l'année dernière, eh bien, ne fera pas la passe de deux cette année. Elle a en effet annoncé qu'elle attendait un heureux événement, le Paris-Roubaix féminin et masculin. Je vous rappelle que sera à suivre. Il sera à suivre à partir de la mi-avril à l'antenne de SBS. Allez, un dernier mot de tennis pour conclure ce journal. Novak Djokovic persiste et signe avec ses positions sur la vaccination. Dans une interview au journal L'Équipe, le joueur serbe, qui d'ailleurs est en passe de perdre son statut de numéro 1 mondial au profit du russe Daniil Medvedev, eh bien, a donc déclaré que même s'il comprend les positions des tournois et le circuit en général, son choix est un choix personnel. On l'écoute.
I was never against vaccination. I understand that globally everyone is trying to put a big effort into handling this virus and seeing a hopefully an end soon to this virus. And vaccination is probably the biggest effort that was made. Probably half of the planet was vaccinated. And I fully respect that. But I've always represented and always supported the freedom to choose what you put into your body.
Voilà donc Novak Djokovic, c'est tout pour le sport. Pour aujourd'hui, on fait une courte pause en musique et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Bien entendu, les Rita Mitsuko, vous aurez reconnu la voix de Catherine Ringer et cette chanson, même si chanson très touchante si vous écoutez très bien les paroles, même si les Rita Mitsuko qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois de février. 13h25 exactement, on fait une courte pause et nous parlons d'économie et de salaire qui augmente, mais vous ne vous réjouissez pas trop vite, parce que le coût de la vie augmente également tout de suite après ça.
Eh bien, comme chaque semaine, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Bonjour, Jean-Noël.
Et on parle des augmentations des salaires qui arrivent.
Oui, ça arrive lentement, tout doucement, mais on dirait que ça commence maintenant à monter, que les salaires commencent à monter finalement après très longtemps où ils sont restés plutôt plats dans tous les secteurs de l'économie. Mais là, on voit que il y a une hausse des salaires. En fait, le plus on les voit monter le plus rapidement qu'on les a vus monter depuis le début de la pandémie. Mais ça dépend dans quel secteur, quelle occupation on est. Alors là, on voit que le Bureau australien des statistiques nous dit que les salaires sont montés par 0,7% dans les trois mois jusqu'au mois de décembre, et ça veut dire 2,3% pour toute l'année dernière. Donc ça, C'est très bien, mais c'est quand même pas autant que les prix sont montés pour les consommateurs l'année dernière, qui est 3,5%. Ça veut dire que en fait la valeur de nos salaires est baissée encore une fois. Mais c'est vrai qu'il y a des bons signes là, parce que ce 0,7%, c'est le meilleur résultat qu'on a vu depuis 2014. Donc, vraiment très, très, très longtemps. Et bon, la Banque centrale aimerait bien les voir monter encore plus, à peu près 3% pour l'année, au moins. On n'est pas encore là, mais ça a commencé à changer. Donc, on voit, par exemple, dans le secteur privé, c'est là où il y a peut-être les meilleurs résultats, où il y a des business qui essayent d'attirer des nouveaux employés, mais aussi d'assurer que leurs employés restent avec eux et n'aillent pas ailleurs, parce que ce n'est pas tellement facile en ce moment de trouver des nouveaux gens pour travailler. Donc, on voit, par exemple, dans le secteur de l'hébergement, l'hôtellerie, les Airbnb, mais aussi dans les services d'alimentation, dans les ventes au détail, là, il y a eu des bonnes hausses de salaire, 3,5%, 2,6%. Donc, ça, c'est bien pour beaucoup, beaucoup d'employés, des centaines de milliers d'employés autour de l'Australie, vraiment. Voilà, donc ça, c'est une bonne nouvelle pour eux. Mais aussi, on voit que c'était une bonne année pour les Human Resources Managers, parce qu'il y a beaucoup de demandes pour eux. Donc là, c'est encore un autre secteur où on a vu que les business, les employeurs ont dû faire monter leur salaire pour assurer que leurs employés restent là avec eux. Et donc, les analystes pensent que ça, c'est un bon signe pour l'année à venir, si ça va continuer comme ça, où les employeurs sont obligés de monter les salaires pour les gens, pour les garder. Donc, on espère qu'on va tous voir nos salaires monter un peu quand même.
Ça va coûter plus cher pour faire des courses, selon le chef d'un des grands supermarchés, le chef de Coles.
Oui, voilà. Alors, en même temps qu'on parle des salaires qui montent, il y a l'inflation. La question de l'inflation, on a vu que l'inflation est toujours plus haut que les salaires. Mais là, on voit le PDG de Coles, qui s'appelle Stephen Kane. Il a fait une interview avec The Age et The Sydney Morning Herald. Et il a dit que les prix montent assez rapidement. Et c'est le pire qu'il a vu depuis assez longtemps. Donc, le prix d'aller faire les courses pour la semaine, c'est sûr de devenir plus cher. Donc, il dit que Coles va essayer d'absorber, de réduire, de limiter le hausse des prix dans leur supermarché, mais ça ne va pas être possible de les éliminer complètement. Il dit qu'il a quand même une responsabilité aux actionnaires, donc ça veut dire que les prix vont monter, ça c'est sûr. Il dit que l'autre problème, c'est que aussi à cause de la pandémie, Coles a dû payer 150 millions de dollars en frais, en coûts qui étaient liés à Covid. Donc des frais énormes, en particulier avec Delta. Ils ont dû dépenser des millions de dollars pour des tests, pour payer plus d'employés, parce qu'il y en avait beaucoup qui sont tombés malades ou qui ont dû s'isoler. Malgré ça, bon, Coles, comme beaucoup d'autres compagnies en ce moment, c'est la saison, ont annoncé leurs bénéfices. Et juste pour les 6 mois jusqu'au mois de décembre, ils ont fait presque 21 millions de dollars. Donc, c'est 1% plus que l'année d'avant. Malgré toutes ces difficultés, la compagnie quand même fait des bénéfices très importants.
Voilà, merci pour cette analyse, Nicolas. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup, à la semaine prochaine.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Qu'est-ce que tu vas faire si je t'aime déjà?
faudrait pas par Madame Monsieur qui fait partie de notre sélection musicale pour ce mois-ci. Il est 13h36, courte pause et on parle des élections australiennes, mais avec un petit twist tout de suite après ça.
En ce début de semaine à Canberra, il n'y a pas de débat à l'Assemblée et c'est sans doute un répit nécessaire après des échanges très violents la semaine dernière entre le Premier ministre Scott Morrison et son principal opposant Anthony Albanese. Ce dernier, qui gagne des points dans les sondages depuis quelques semaines, a été la cible d'attaques multiples de la part des membres du gouvernement, l'accusant tour à tour de n'avoir jamais exercé de responsabilité majeure en matière d'économie ou d'affaires étrangères par exemple, mais aussi de se montrer beaucoup trop bienveillant à l'égard de la Chine. En la matière, c'est un Scott Morrison survolté qui a porté les accusations les plus lourdes, affirmant d'abord qu'Anthony Albanese était le candidat préféré du Parti communiste chinois.
The leader of the Labour Party is the Chinese government's pick at this election.
Mais ne s'arrêtant pas là, le Premier ministre est même allé plus loin à l'encontre de Richard Marles, le président adjoint du Parti travailliste.
And then there was, of course, the deputy leader of the Labour Party when he went up to Beijing, Mr. Speaker, and you won't be able to find the speech that he gave to the Beijing Foreign Studies University, Mr. Speaker. He's taken it off his website, but I'm pleased Senator Patterson has put it on his website, Mr. Speaker.
The Prime Minister.
We've got another Manchurian.
Ce qualificatif qu'il ne finit pas de prononcer dans son intervention et qu'il retirera formellement quelques secondes plus tard, c'est celui de Manchurian Candidate. Pour ceux qui savent ce à quoi cela fait référence, c'est une accusation extrêmement grave. Pour les autres, permettez-moi d'éclairer vos lumières. The Manchurian Candidate, à la base, c'est un roman paru à la fin des années 50. Il raconte l'histoire du fils d'un politicien américain de premier plan qui a subi un lavage de cerveau destiné à le transformer en assassin à la solde de l'URSS. Cet ouvrage a également été adapté au cinéma sous le titre français « Un crime dans la tête » avec Denzel Washington et Meryl Streep à l'affiche. Dans cette version, toutes les références à la guerre froide, plus vraiment d'actualité lorsque le film est sorti en salle en 2004, ont été gommées. Mais en revanche, l'idée centrale est toujours bel et bien là, celle d'un personnage ayant accès aux plus hautes fonctions ou à ceux qui les occupent, contrôlé à son insu par des forces obscures qui n'ont pas vraiment la défense de l'intérêt général pour priorité. Autrement dit, Scott Morrison a accusé Richard Marles d'être une marionnette à la solde de Pékin. Une attaque très violente donc, mais très surprenante aussi, puisqu'en Australie, la tradition veut que sur les sujets de sécurité nationale, le gouvernement et l'opposition travaillent en bonne intelligence. La sortie de Scott Morrison lui a donc valu de nombreuses critiques, et pas seulement venues du camp travailliste. Parmi ceux qui ont fait part de leur désapprobation, Mike Burgess, l'actuel patron des services secrets australiens, mais aussi Dennis Richardson, un ancien haut fonctionnaire et diplomate. Anthony Albanese n'a pas hésité à le rappeler au Parlement et à renvoyer à Scott Morrison ses accusations à la figure.
Dennis Richardson, appointed by the Howard government as the Director General of ASIO and as our ambassador to Washington. And this is what he said. The creation or the attempt to create an artificial division only serves the interests of one country, China. So if you're looking for a Manchurian candidate, he sits over there.
Loin de Canberra, un sujet de fond majeur, celui de la transition énergétique, a également été mis sur la table en fin de semaine dernière, avec l'annonce de l'énergéticien Origin, qui prévoit de fermer sa centrale à charbon Dairyring, la plus grande et la plus polluante du pays, avec 7 ans d'avance dès 2025. L'entreprise a expliqué que le charbon, face à la montée en puissance des énergies renouvelables en Australie, était de moins en moins compétitif et qu'elle envisageait de construire une batterie de très grande capacité sur le site de la centrale quand celle-ci sera démantelée. Étonnamment, cette nouvelle n'a pas du tout plu à Angus Taylor, qui est pourtant ministre de la réduction des émissions. Écoutez le réagir, c'était sur Sky News.
It's very disappointing for the workers in that Lake Macquarie region. It's very disappointing for the big energy users, and I've spoken to a number of them today. We'll work with the state government and the private sector to work towards a solution to this, but I think in the future companies like Origin can do better than this.
Cette annonce qui a provoqué la stupeur est tombée vendredi dernier et c'est aussi le jour où Adam Bent, le leader des Verts, a décidé d'annoncer l'une des mesures phares de son parti. Dépenser 40 milliards de dollars pour renationaliser le secteur de l'électricité. Grâce à cette mesure, il souhaite accélérer la sortie du charbon et du gaz en fermant toutes les centrales en activité d'ici à 2030 au plus tard, investir massivement dans les énergies renouvelables et ce, tout en maintenant des prix bas. Sur ABC, il a expliqué avoir pris pour modèle la compagnie publique Snowy Hydro, qui contrôle plusieurs barrages et centrales hydroélectriques dans le parc national de Kosciuszko.
People love Snowy Hydro because they know it's in public hands and it gives a benefit to the whole community. We're saying let's take that popular support for a really good idea and apply it now to renewables. And that idea of a big build that results in more renewables and electricity being sold at cost price to consumers and businesses is something that ticks all the boxes and I think has every chance of getting through the next parliament.
Un premier sujet de fond a donc enfin été abordé dans cette campagne. Espérons qu'il y en aura beaucoup d'autres et qu'en revanche les invectives, elles, se feront plus rares.
Je chante un baiser, je chante un baiser.
Ça restera une des chansons, une de mes chansons préférées de cette sélection du mois de février. Un baiser d'Alain Souchon, retour dans les années 90. Il est 13h46, on va parler de cinéma maintenant et une interview que nous avons pu avoir avec Valérie Lemercier et son film Aline, un film purement et simplement inspiré de la vie de Céline Dion.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'avoir sur nos ondes Valérie Lemercier, l'actrice et la réalisatrice française. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Valérie Lemercier, on vous parle aujourd'hui parce que votre dernier film, dans lequel vous interprétez le rôle principal, mais vous êtes également la réalisatrice, Aline, vient de sortir sur les écrans en Australie. Il est sorti hier exactement. En quelques mots, pour les gens qui n'en auraient pas entendu parler, mais je doute qu'il y en ait beaucoup, de quoi s'agit-il ?
Il s'agit d'une fiction librement, très librement inspirée, de la vie de Céline Dion. C'est donc le parcours incroyable et l'histoire d'amour incroyable d'une des plus grandes chanteuses planétaires qui est au départ une petite dernière non désirée d'une fratrie de 14 enfants dans le Québec de la fin des années 60. Voilà, donc on retrace son histoire, mais ça commence en 1932, avec la rencontre de ses parents, et parce que ça commence avec la musique, ses parents se sont rencontrés en jouant de la musique, et c'est une famille de musiciens, et puis évidemment la grande histoire d'amour avec son manager et mari et père de ses enfants. Voilà, donc c'est ça. Ça survole, enfin ça survole pas parce qu'on est dans l'intimité, on est plutôt dans les sous-bassements que, enfin voilà, on est voilà de cette vie-là. C'est un hommage à Céline Dion. C'est pas du tout un film moqueur ni parodique. C'est une ode à cette grande chanteuse, voilà.
Alors, moi, je l'ai vu, je vous ai trouvé formidable, j'ai trouvé le film très très bien aussi, je sais qu'il a reçu d'excellentes critiques partout, il a été diffusé. Ce que je voulais vous demander, c'est si vous saviez que votre film, il a été projeté en première mondiale ici à Sydney, il y a à peu près un an, à un moment où tous les cinémas en France étaient fermés.
Oui, je me souviens très bien, parce qu'il y avait des gens qui disaient « c'est horrible, on peut le voir en Australie, on ne peut pas le voir ». Ici, comment ça se fait? Oui, tout à fait, je suis évidemment au courant. Je suis un peu l'actualité de ce film et je sais qu'il a été diffusé dans le cadre d'un festival en Australie. Vous êtes les premiers pour ceux qui étaient là, parce que je ne sais pas si vous étiez nombreux, mais à l'avoir vu, oui, c'est vrai.
Alors, je le disais, vous jouez donc le rôle principal de Céline, qui s'appelle Aline dans le film.
Aline, ce que Aline Dieu, oui.
Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est vous qui l'a jouée à tous les âges, y compris quand elle a à peine 12 ans.
Oui, 5 ans. À 5 ans, c'est les premières images, elle a 5 ans, quand elle regarde ses frères et sœurs jouer. Oui, ce que je commence là. Voilà. Et ça n'est pas mon vieux visage sur un corps d'enfant, c'est tout moi. C'est-à-dire que c'est des effets spéciaux remarquables. Certains aussi, certaines fois, c'est des choses toutes simples, comme avoir un très grand bureau à l'école, et donc on croit que je suis petite. Mais ils m'ont réduite entièrement. C'est-à-dire que c'est mes mains, mon corps, on m'a réduite, évidemment, gommé les marques du temps, mais avec le mouvement, avec, je ne fais pas non plus des gros plans très, très serrés de ces moments-là. Ça, c'est plus simple à partir de 16-17 ans quand même. Mais oui, vous avez même échappé. J'avais fait le bébé dans son tiroir, parce qu'elle était dans un tiroir. Et il y avait donc le bébé avec sa gencive et son unique dent. Et mon producteur m'a supplié de le couper. Donc voilà, peut-être qu'un jour on le verra. Mais je trouvais ça amusant de... J'ai toujours joué des enfants dans mes spectacles. Donc j'ai trouvé ça... Je voulais pas confier à quelqu'un, et souvent c'est plusieurs personnes, parce qu'on en prend une pour jouer petite, une pour jouer ado, une pour jouer jeune femme. Je trouvais ça, ça faisait partie de ce film, de le jouer et de le jouer tout le temps. C'est comme si quand elle a les dents de travers et qu'elle est chez le dentiste, j'ai pas envie d'envoyer une pauvre gamine à ouvrir la bouche. Je trouve ça plus amusant que ce soit. C'est-à-dire de faire à la fois les choses pas très mignons et les choses très glamour. C'est ça qui était marrant, de prendre tout ça, d'incarner toutes ces phases, même les plus ingrates, on va dire. Voilà.
Alors, vous le disiez, ce film, c'est un petit peu comme un biopic, et vous avez précisé tout à l'heure que l'intention n'était absolument pas de se moquer. Moi, j'ai trouvé effectivement qu'il y avait... on sent que vous avez de la tendresse pour Céline Dion quand on regarde ce film. Et pourtant, j'avais cru vous entendre dans des interviews lors de sa sortie en salle en France que Céline Dion n'a pas voulu être associée à votre film du tout. Est-ce que ça vous a chagriné ?
Non, je la comprends très bien. Je pense qu'à l'heure qu'il est, elle l'a toujours pas vue, et j'espère qu'elle le verra un jour. Mais elle se tient à l'écart. C'est pas son voilà. Sa manageuse a lu le scénario dès qu'il a été terminé. C'est la première chose que j'ai faite. Et elle a vu tout l'amour que j'avais pour elle et que ça n'était pas ça allait pas être une énième, parce qu'il y en a beaucoup et en France et au Québec, de gens qui font des parodies ou des voilà. Elle a vu l'attention, le ton du film, et Céline n'a pas souhaité ni voir. C'était possible pour elle. Elle sait ou pas d'ailleurs, parce que je n'ai pas de contact direct avec elle. Si elle a lu une lettre que je lui ai envoyée pour lui, enfin voilà. En tout cas, je pense qu'elle n'a pas vu le film, et je comprends qu'elle ne s'y précipite pas. Est-ce que si j'étais elle, j'en ferais pas autant. Voilà. J'espère qu'elle le verra un jour. Mais elle n'a pas empêché du tout ce film, et il a été. Enfin voilà, c'est. Mais je comprends qu'elle n'ait pas participé. C'est quand même une fiction. C'est ma vision de. Enfin voilà. Et puis ça, elle a perdu et son père et sa mère et son mari. Est-ce qu'on a envie de se replonger forcément dans tout ça? J'ai aucune. Voilà, je comprends tout à fait qu'elle est tenue à rester à l'écart, parce que forcément, il y a des... Voilà, ça, c'est... Vous savez, je raconte ça, mais Grace Kelly, quand on a fait un documentaire sur elle, elle le voit, c'est donc un documentaire, elle se voit avec un chapeau, et elle dit « j'ai jamais mis ce chapeau ». Donc, même quand c'est... vous voyez ce que je veux dire, c'est forcément réinventer, rêver, il y a des tas de choses qui sont inventées, plein, qui sont pour être plus romantiques, pour que soit les images soient plus fortes, il y a des, par exemple, c'est des petites choses, mais elle avait toujours une petite pièce de 5 dans sa poche. Moi, dans le film, comme elle avait un lien très particulier avec son père qui ne parlait pas beaucoup, c'était la mère qui prenait beaucoup de place, c'est dans le film, c'est son père qui la lui donne. Donc, ça n'est pas tout à fait vrai, mais en même temps, ça, enfin voilà, ça, c'est quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà, donc on peut ne pas retrouver le parfum de ce qu'a été sa vie, etc. Enfin voilà, c'est ouais. possible. Donc, mais j'espère qu'elle le verra avant mon décès.
Si jamais un jour ton vieux bouc qui passe par-dessus la barrière, il voudrait que sa petite biquette ait continué de rendre le monde heureux, mais qu'à poursuivre ce qu'on a bâti tous les deux ensemble.
On a un diamant brut. J'ai presque manqué de pleurer. Elle va mettre tout le monde à terre.
Ah, voici maintenant un moment que nous attendons tous avec impatience. C'est la révélation au Québec de piano.
Voici Aline Dieu.
J'ai des grands rêves pour elle, puis je le sais qu'elle va les atteindre. Faut qu'elle voie autre chose, qu'elle sorte de vos jupons.
With
Il faut pas se le cacher. Question d'audition, il y a quand même un petit trafic à effectuer. Je m'inventerai reine pour que tu me retiennes. Oh. Je me ferai nommer pour que le feu reprenne.
Faut que tu guérisses.
Je suis pas malade, maman. Je suis tombée en amour. Puis je suis sûre que lui, c'est pareil.
Vous avez pas compris que pour ma petite princesse, c'est un prince qu'il lui faut. Pas un vieux pruneau bronzé qui a trois fois son poids, deux fois et demi son âge et qui est deux fois divorcé.
Une.
Il y a beau avoir le monde entier dans la salle, c'est pour lui que je chante, maman.
Everywhere I go. Cette folie-là, on va pas la faire, Aline.
Garde-moi bien droit dans les yeux. Puis dis-moi que tu m'aimes pas. On a land I've never seen.
Et 58 minutes, on va faire un retour sur les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui avec vous Marianne.
Oui, le président ukrainien qui sort de sa réserve et évoque pour la première fois un risque de guerre en Europe, les États-Unis qui ouvrent la voie à la négociation tout en menaçant Moscou de sanctions plus sévères, en France la candidate à l'élection présidentielle Valérie Pécresse embourbée dans une nouvelle polémique de fraude cette fois, et enfin les intempéries sur la côte est australienne qui s'intensifient, le corps sans vie d'une femme de 63 ans vient d'être retrouvé dans le Queensland.
Voilà, c'est la fin de notre programme. Merci Marianne d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir fait le journal. Le prochain rendez-vous avec le français, c'est bien entendu samedi à 13h et dimanche à 13h également. Notre site internet sbs.com.u/french pour tout ce qui est français et australien pour vous sur SBS. Voilà, bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À samedi.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.